Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 6 juin 1944, à 6h30 très précise, l'avant des bateaux à fond plat des forces alliées touche les rivages de Normandie. Les premiers soldats font face aux tirs allemands sur ces plages qui, chacune pour l'occasion, portent un nom qui restera à la postérité, Utah, Omaha, Gold, Juno. C'est le début du débarquement, le début, nous pouvons le dire, d'une reconquête. Dans le cadre de l'anniversaire de ce débarquement, un jour dans l'histoire se propose de porter son regard sur trois visages de l'époque. Le premier, d'abord, celui du maréchal Pétain qui, le 24 avril 1944, fête son 88e anniversaire à Vichy avant de monter sur Paris où il reçoit, on pourrait s'en étonner, un accueil chaleureux. Deuxième visage, celui du général de Gaulle qui, lui, le 27 mars de la même année, emploie pour la première fois l'expression de gouvernement provisoire de la République dans un de ses discours. Et enfin, le troisième visage, celui tout simplement des Français de ce 6 juin 1944, des Français pris entre la mort et l'espoir. Pour évoquer ces trois regards, je reçois Henri Amouroux. Henri Amouroux, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous ai déjà reçu à ce micro pour évoquer avec vous un tout autre événement, puisqu'il s'agissait de la défaite de juin 1940. Et je ne peux que renvoyer nos auditeurs à votre énorme travail, Les Français sous l'occupation, réédité, la grande histoire des Français sous l'occupation, réédité chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Alors, peut-être commencerai-je par un lien avec notre précédente émission. Juin 1944, c'est le contraire de juin 1940, une sorte de juin 1940 à rebours.
Ah oui, c'est d'abord dans le ciel. Si les Anglais et les Américains débarquent, c'est parce qu'il n'y a plus d'aviation allemande. En France, en mai 40, la France perd la guerre parce qu'elle n'a pas assez d'aviation face à l'aviation allemande. Le rapport est de 1 à 4, n'est-ce pas? Et là, en 44, le rapport est de 1 à 30 ou 1 à 40. Dans la matinée du 6 juin 1944, il y a 9 000 ou 10 000 avions, des avions de bombardement, des avions de chasse, des avions de reconnaissance, des avions, etc., etc., qui interviennent du côté allié. Et du côté allemand, il y en a deux dans la matinée simplement, deux chasseurs qui survolent les plages de Normandie. Non, c'est un juin 40 à l'envers, de toute façon, militairement, oui. Et donc, et de façon événementielle également, naturellement. Le général de Gaulle vient à Courcelles le 14 juin 1944. Il vient sur un aviso des forces françaises lises qui s'appelait la combattante. Il est là avec ses jumelles, alors personne ne le dérange d'abord, parce qu'on ne le dérangeait pas comme ça. De Gaulle, il n'était pas si facile. Et puis finalement, il y a quelqu'un de ses officiers, lorsqu'il a posé ses jumelles, il voit la côte française approcher. Côte française, il avait quitté la France le 17 juin 40. Depuis 4 ans, il n'avait pas vu. Bon. Et alors, il y a un de ses officiers qui s'approche, qui lui dit « Mon général, le 14 juin, nous sommes le 14 juin, les Allemands entraient dans Paris. » Et De Gaulle répond ce mot étonnant et logique « Eh bien, ils ont eu tort. » Ils ont eu tort, parce qu'ils ont eu tort non pas de suivre la pente inclinée de leur victoire, naturellement pas, mais ils ont eu tort parce qu'ils étaient entrés dans une guerre qu'ils étaient fatalement condamnés à perdre, puisque le monde entier un jour serait contre eux. Alors oui, c'est un juin 40 à l'envers et beaucoup plus que ça. Vous m'avez parlé de la figure du maréchal Pétain. En effet, il est acclamé quand il vient à Paris. Il vient à Paris parce qu'il y a eu, dans les jours qui ont précédé, des bombardements très violents. Il faut parler des bombardements qui ont été très violents sur la France et qui ont tué beaucoup de Françaises et de Français. Beaucoup, beaucoup.
Vous dites dans votre livre que sans les bombardements, il n'y aurait pas pu y avoir deux débarquements.
Sans les bombardements dans la mesure où les bombardements cassaient les voies ferrées, cassaient les ponts, cassaient tous les moyens de circulation des Allemands et cassaient également les villes, si bien qu'une dans une ville comme Caen, les Allemands ne pouvaient pas traverser Caen parce que les ruines étaient telles que vous ne pouviez pas passer dans les rues. On pouvait passer dans les rues à pied en gravissant des montagnes, des montagnettes de moellons, n'est-ce pas, de maisons effondrées, mais un char ne pouvait pas passer dans Caen, point final. C'était comme ça. Il fallait donc contourner Caen. Maréchal Pétain vient, il vient sans que les Parisiens le sachent, et s'il y a effectivement 10 000 personnes, ce qui est beaucoup, mais enfin 10 000 personnes autour à l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville, et qu'il prononce un discours qui ne sera pas retransmis d'ailleurs, mais dont nous avons la bande, et j'ai publié le texte de la bande, discours dans lequel il dit « Je reviendrai sans mes geôliers », n'est-ce pas ? Bon, les gens qui sont là l'acclament, effectivement, mais parce qu'ils acclament l'uniforme, l'homme. Ils n'acclament pas la politique du tout, d'ailleurs, la politique, ils savent pas. Et Maurice Schumann n'est pas suspect. Maurice Schumann était à Londres, le général de Gaulle, depuis juin 40. Mais Maurice Schumann m'a dit, moi, Henri, j'y serais allé pour voir un uniforme français, pour voir un uniforme français. Alors, il y a ce côté, et on ne peut pas comparer, c'est faux historiquement, les deux foules, celle qui a acclamé le maréchal Pétain, qui n'était pas prévenu. Si les Parisiens avaient été prévenus, il y aurait eu certainement entre 40 000, 50 000, 60 000 personnes. C'est très, très vraisemblable. Et celle qui a acclamé le général de Gaulle le 26, n'est-ce pas ? Le 26 août 1944, ce n'est pas pareil. Donc, et puis à ce moment-là, le maréchal Pétain n'a plus aucun pouvoir. Il faut dire les choses qu'elles sont.
Dans votre livre, en fait, sur le maréchal Pétain, vous évoquez un homme, je vous cite, tantôt prêt à tout abandonner, tantôt s'accrochant, par vanité parfois, par devoir le plus souvent, à un pouvoir vidé de toute réalité. Et vous ajoutez, le maréchal Pétain croit, et on lui fait croire, qu'en 1944, ce pouvoir protège encore les Français.
Oui, on le lui fait croire, naturellement. Il y a des gens qui sont intéressés à lui faire croire. Mais ce n'est pas vrai. Il peut protester contre le crime d'Oradour, mais il y a eu Oradour, vous comprenez. Il peut protester contre les crimes de Tulle, mais il y a eu Tulle, vous comprenez. Donc, il n'a plus de pouvoir, et le pouvoir, d'ailleurs, n'appartient plus du tout à aucun gouvernement, à aucun Français. Le pouvoir est uniquement entre les mains de l'armée allemande. Enfin, le pouvoir, il n'y a plus. Et puis, le pouvoir, c'est quand l'armée allemande n'est pas présente, ça n'appartient plus au gouvernement français, dont les représentants sont chassés par les maquis, dans certains départements vides allemands. Donc, la situation est extrêmement confuse, compliquée. Non, le maréchal Pétain, d'abord, a 88 ans. 88 ans de 1944, ce n'est pas 88 ans de 2004, je vous fiche mon billet, c'est tout à fait différent. La médecine a fait des progrès absolument considérables depuis. Les hommes de 88 ans aujourd'hui, ben ils sont très jeunes, la plupart, entre eux, tout au moins. Et donc, c'est pas pareil. Et le maréchal Pétain, naturellement, d'ailleurs, on a des oublis de mémoire, on est fatigué. À la fin de la journée, on est beaucoup plus accablé qu'au début. Les gens exploitent votre fatigue. Non, 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 le maréchal Pétain ne compte politiquement plus. Bon, il y a naturellement certains attendrissements, si vous voulez, certaines vénérations, si vous voulez. Non, le général de Gaulle, alors lui, le général de Gaulle qui est beaucoup plus... Il a 54 ans, le général de Gaulle, c'est tout à fait différent.
Peut-on opposer le Pétain 1944 à celui 1940?
Ah oui, bien sûr. Mais en 1940, il est beaucoup moins fragile et fragilisé qu'en 1944. L'Allemagne de 1940 et l'Allemagne de 1944 ne sont pas les mêmes, ce qu'il faut comprendre. Dans ses réactions, l'Allemagne est tout à fait différente. Enfin, ça serait le sujet d'un seul entretien. Il faut passer quand même à évoluer. Parler du général de Gaulle. Le général de Gaulle, lui, a 54 ans. Et il est très mécontent, parce qu'il n'a pas été prévenu du débarquement. Il se trouvait à Alger, vous le savez, Alger dont il avait éliminé le général Giraud à partir de l'été 1943. Et il vient à Londres, invité par Churchill, j'allais dire convoqué, mais enfin invité par Churchill. Et là, il découvre que les Américains ont préparé un système d'administration américaine qui vont coller sur l'administration de Vichy qu'ils conserveraient pratiquement. Alors ça s'appelle l'AMGOT, c'est-à-dire l'administration militaire dans les pays occupés. Il y a le mot occupé dans l'AMGOT. Comme ils avaient fait en Italie occupée et ennemie, car l'Italie avait déclaré la guerre aux États-Unis en décembre 1941. Alors, le De Gaulle est furieux parce qu'il veut que ça soit son administration, naturellement. Une administration nouvelle, pas l'administration de Vichy plus ou moins replâtrée. Et puis, également, il est furieux parce que les Américains ont fabriqué ce qu'il appelle de la fausse monnaie, qui est effectivement de la fausse monnaie. Et comme il y avait des marques d'occupation, quand il y avait les marques d'occupation, eh ben, il y avait des billets qui ressemblaient comme un franc au dollar, qui était un dollar, avec une valeur en francs français. Et puis, il y avait un petit drapeau français, liberté, égalité, fraternité. Il est furieux de tout ça.
Et la monnaie est vraiment un symbole. Hein.
La monnaie, oui, la monnaie est un symbole. Et lorsqu'il va venir en France, il ne connaît pas les instructions que Churchill avait données à Eden, lequel Eden, ministre des Affaires étrangères, ne les avait pas d'ailleurs respectées, car Churchill avait dit, le général de Gaulle vient en France, il ne faut pas qu'il parle, il ne faut pas qu'il fasse des discours. Vous parlez pour empêcher de Gaulle de parler, ça veut dire c'est un peu compliqué. Il ne faut pas qu'il fasse des discours, il faut qu'il parle brièvement, il ne pourra faire un communiqué qu'en rentrant en Angleterre. Il ne faut pas qu'il attroupe les foules, etc., etc. Bon, on le mettait, on le tenait avec une ficelle. Alors, De Gaulle arrive le 14 juin à Courseul, il débarque, et il ne va pas immédiatement à Bayeux, qui était une ville qui avait été libérée intacte, ce qui était miraculeux dans ce désert de ruines de la Normandie. Et il n'y va pas tout de suite, mais il envoie tout de suite à Bayeux deux hommes. Un, François Coulet, qui va le représenter politiquement, et un autre, Chevigné, qui va le représenter militairement. Pierre Chevigné, qui va le représenter militairement, n'est-ce pas ? Et ça va implanter dans les territoires libérés le pouvoir gaulliste, le nouveau pouvoir, le pouvoir gaulliste. Et De Gaulle, de ce quelques heures, il passe la demi-journée à Bayeux, dans ses conclusions, dans ses mémoires de guerre, tire une conclusion absolument extraordinaire, mais c'est De Gaulle, ça. Il dit, Bayeux, c'est la preuve qu'en France, comme dans l'Empire, un seul pouvoir est reconnu, etc. Bon, il veut dire, je n'ai pas sa phrase en mémoire, mais j'ai le sens en mémoire, il veut dire que de l'expérience de Bayeux, c'est-à-dire 2000 personnes de Bayeux l'acclamant, 2000 habitants de Bayeux l'acclamant, eh ben, c'est la France entière qui est toujours sous le pouvoir des Allemands qui l'acclament. Finalement, ça se révélera vrai, naturellement, avec mille et une complications. Ça, c'est la suite de l'histoire. Et alors, De Gaulle, bon, il veut éliminer le pouvoir en place. Il veut réussir ce qu'il avait voulu dès juin 40. Il faut bien comprendre qu'en juin 40, De Gaulle n'a pas du tout l'intention de créer une légion qui combattrait à côté des Alliés, qui combattrait les Allemands à côté des Alliés et qui mènerait la bataille. Absolument pas. Ce qu'il veut, il écrit d'ailleurs, c'est un transfert de légitimité. Sur le même socle, vous ne pouvez pas mettre deux statuts. Hein ? Le socle, il y a un monsieur, pas deux messieurs. Bon, eh bien, il y a le monsieur, il y a Pétain en 40. De Gaulle, personne ne le connaît. Personne. Bon, il y a Pétain. Pétain, tout le monde le connaît. C'est Verdun, c'est 1917. Il y a 5 millions d'anciens combattants. 5 millions, il n'y en a plus. Il n'y en a plus que 30 ou 40 aujourd'hui. Peut-être 20, peut-être 10, je ne sais plus. 5 millions d'anciens combattants. Avec leurs femmes, avec leurs enfants, à qui ils ont parlé sans arrêt de Verdun, etc. Bon, c'est considérable, Verdun. C'est la statue Pétain, c'est Verdun. Et 1917, mais 1917, c'est beaucoup plus discret, c'est les mutineries, c'est le drame de famille, on cache toujours les drames de famille. De Gaulle veut un transfert de légitimité. D'autant plus qu'il avait été protégé par Pétain. Il le connaissait depuis 1912, qu'il était lieutenant au 33e régiment d'infanterie, et qu'il avait Pétain pour colonel. Et Pétain l'avait toujours protégé. Mais bon, c'est l'histoire. L'histoire, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est passionnant, l'histoire, parce que c'est compliqué. Alors bon, De Gaulle, il veut... Pourquoi dit-il à Eisenhower qu'il faut qu'il aille au secours de Paris, alors qu'Eisenhower avait prévu une grande manœuvre de détournement, de ne pas attaquer Paris, pour ne pas détruire Paris, pour ne pas bombarder Paris, pour ne pas se battre dans Paris, envelopper Paris, et que Paris tombe comme un fruit mûr. De Gaulle veut y aller. Pourquoi ? Parce que depuis le 19 août, les communistes qui ont été très courageux dans cette guerre à partir de 1941, bien sûr, très très courageux, et qui se sont sacrifiés souvent beaucoup plus que les autres. Les communistes avaient commencé la rébellion, la révolution, la révolte de Paris, les batailles pour la libération, et De Gaulle ne voulait pas. En même temps se déroule le drame de Varsovie, on n'y pense pas assez souvent. Et De Gaulle ne voulait pas tout ça, parce qu'il ne voulait pas recevoir le pouvoir ni des mains des Américains, ni des mains des communistes, surtout pas des mains des communistes, n'est-ce pas ? Et donc, il veut que ce soit la deuxième DB, Leclerc, qui libère Paris. N'est-ce pas ? Et on ne parle pas du tout de la 4e division américaine qui va entrer dans Paris, qui va aller place de la République. Pchit, elle est complètement éliminée de l'histoire. Pouf ! Hop, on n'en parle pas. Pourquoi ? Et pourquoi de Gaulle, arrivant à la gare Montparnasse, qui n'est pas la gare Montparnasse aujourd'hui, qui est la vieille gare Montparnasse, pourquoi de Gaulle est-il furieux lorsqu'il voit que c'est la reddition de von Solstice, le général, d'ailleurs pas odieux, qui n'a pas détruit Paris, contrairement aux ordres que lui donnait Hitler. Pourquoi, n'est-ce pas, est-il furieux que Roll Tanguy, communiste, chef de la résistance, ait signé avec Leclerc, parce que c'est les communistes et qui ne veulent pas que le pouvoir pour de Gaulle, le pouvoir ne se partage pas. Il a dit, écrit 10 fois, le pouvoir ne se partage pas.
Je reçois Henri Amoureux et nous évoquons le 6 juin 1944. Nous nous retrouvons après une première pause.
Le graveur Pierre-Yves Trémoy, membre de l'Académie des Beaux-Arts, revient pour Canal Académie sur sa rencontre entre le clown blanc Pippo et le réalisateur Federico Fellini. De cette amitié naîtra un livre consacré au clown, illustré par Pierre-Yves Trémoy et incluant un texte du réalisateur italien. Découvrez sans plus tarder ce témoignage unique dans notre émission Carrefour des Arts, une émission en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Un jour dans l'histoire reçoit Henri Amoureux et nous évoquons le 6 juin 44 dont nous commémorons, dont nous fêtons l'anniversaire cette année. Alors nous évoquions la personnalité de Gaulle et de Gaulle est vraiment dans les faits opposé à Eisenhower. Le matin du 4 juin par exemple, le général américain dit aux Français « pas de soulèvement prématuré ». Alors le général de Gaulle, lui, incite tout bonnement les Français à se soulever.
C'est pas le cas, c'est le 6.
Le 6 juin.
Le 6 juin. Et de Gaulle refuse de parler avec les autres chefs de gouvernement ou d'État qui sont à Londres. Toute l'Europe était occupée par l'Allemagne, et vous aviez à Londres, vous aviez des Belges, vous aviez la grande-duchesse de Luxembourg, vous aviez le roi de Norvège, vous aviez des Tchèques, vous aviez etc., etc. Et de Gaulle ne veut pas être dans cette liste, si je peux dire. Il va parler tout seul à 5h30, je crois, 17h30, oui. Il va parler tout seul.
Il se démarque nettement.
Oui, il se démarque, et il se démarque doublement. Il se démarque non seulement en choisissant son horaire, mais il se démarque en disant le contraire de ce qu'a dit Eisenhower. Eisenhower a dit, ne vous révoltez pas, obéissez aux ordres que l'armée américaine vous donnera. Et de Gaulle dit, obéissez aux ordres que nous, notre gouvernement vous donnera. Mon gouvernement, enfin, le gouvernement vous donnera, pas le gouvernement de Vichy, naturellement, le gouvernement. Non. Bien sûr, de Gaulle, c'est un personnage hors du commun, et bien entendu, qui agit comme ça, qui ne va pas être en contradiction avec toute son action de 4 ans. Ce n'est pas le 6 juin 44 qui va être en contradiction avec tout ce qu'il a rêvé de faire depuis juin 40. Hein.
Comment arrive-t-il à gérer cette opposition avec Eisenhower?
Ce n'est pas une opposition avec Eisenhower. Eisenhower était un homme très compréhensible. L'opposition était avec Roosevelt, elle n'était pas avec Eisenhower. Non, elle n'était pas avec Eisenhower. Elle était avec Roosevelt. Avec Eisenhower, non. Eisenhower était général, généralissime, comme tel. De Gaulle se pliait à ça, trouvait très bien tout ce qu'il faisait, d'ailleurs, mais il n'était pas chef politique. Et de Gaulle est un chef politique, c'est pas un général, c'est un bien entendu. S'il dit que c'est pas un général, on va me dire que je suis complètement idiot. Je veux dire, ce n'est pas d'abord un général, c'est d'abord un historien et ensuite un politique. Un historien, il sait que Paris a toujours décidé de tout, donc il faut être à Paris. Hein ? Paris. Dans l'histoire de France, c'est pas vrai pour Berlin, c'est pas vrai pour Rome, c'est pas vrai. Paris, oui, c'est vrai depuis très 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 longtemps dans l'histoire de France, c'est Paris. Vous êtes Paris ? Vous êtes le patron. Donc il faut être à Paris. Et ça, c'est de Gaulle historien. Prodigieux historien, remarquable historien, de Gaulle. Et ensuite, de Gaulle est politique. Politique, il sait très bien qu'il ne faut pas recevoir le pouvoir des communistes. Il ne veut pas d'un pouvoir partagé. Dès qu'il va arriver à Paris, bon, il arrive le 25, le 26, le 25 au soir, le 26, il y a les Champs-Élysées, cette descente fabuleuse, mais pendant laquelle il ne se laisse pas porter par la griserie, l'enthousiasme et les bravos des foules, pas du tout. Il pense déjà aux gens qui complotent autour de lui, il prenait les mémoires de guerre, il écrit, il pense aux gens qui l'accompagnent et qui complotent. C'est ça, de Gaulle aussi. Hein. Bon, c'est un homme très, très compliqué, très complexe. Et, bon. Et puis, dès que quatre jours après, il y a le samedi et le dimanche, il va à la messe, qu'on va dire, d'ailleurs, rue Saint-Dominique, puisqu'il est allé rue Saint-Dominique, dont il était parti en juin 40, c'est au ministère de la guerre, dont il est parti en juin 40, puisqu'il était sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Et donc, il reçoit le lundi ce qu'il appelle les chefs partisans. Lisez les mémoires de guerre, lisez. Ils n'appellent pas les chefs résistants, les chefs partisans. Le mot partisan et le mot résistant n'ont rien à voir. Hein. Mmh. Et De Gaulle, Dieu sait, est attentif aux mots. Et il leur dit, ils sont tous colonels, bien entendu, il leur dit, qu'est-ce que était votre grade avant la guerre, pendant la guerre, caporal, sergent-chef, mon général, deuxième caporal. Alors il leur dit, écoutez, vous allez rentrer dans l'armée régulière, oui, enfin, on va revoir les grades, etc. Ils perdent leurs troupes, leurs bandes, leurs hommes, je ne veux pas dire bande avec un mot négatif, non. Leurs hommes qui leur étaient attachés. Ils reviennent dans l'armée. Ils auront des chefs qui sont des chefs. Il y en a un qui va émerger, c'est Roll Tanguy. Mais Roll Tanguy sera très vite écarté et qui va faire la guerre, qui va monter sur le front d'Alsace. Il n'y a aucun problème. Roll Tanguy est un homme très courageux. Il est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Mais c'était un homme très courageux, Roll Tanguy. Et il va faire la guerre. Mais après, on va le mettre à l'écart. On va l'écarter de tout pouvoir, de toute décision. Et donc, après, il fait venir dans l'après-midi le CNR, le Conseil National de la Résistance, qui se voyait très bien en pouvoir bis. La France en double commande. Avec le Conseil National de la Résistance, les comités départementaux de la Libération, les comités locaux de la Libération. Et De Gaulle leur dit, vous entrez dans l'histoire. Si vous entrez dans l'histoire, vous sortez de la politique. Et il n'y aura pas deux pouvoirs, il y aura mon pouvoir. Alors il prend Bidault aux affaires étrangères. Bidault avait succédé à Jean Moulin, au Conseil national de la résistance. Tout ça, il émiette tout ça, il fragmente tout ça. Il faut du temps, hein, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Il va, trois semaines après son arrivée à Paris, il va dans quatre villes chaudes. Il va à Lyon, à Marseille, à Toulouse et à Bordeaux. Bon, Lyon, il est reçu par Yves Farge qui lui demande où sont les autorités en prison, mon général. Bon, Marseille, c'était la grande pagaille. Bon, très bien. Toulouse, encore plus grande pagaille. Et Bordeaux, qui n'a jamais été une ville bien chaude, mais Bordeaux, il y avait tout un tas de maquis qui étaient venus, du Lot-et-Garonne, qui étaient venus de l'Ariège, qui étaient venus de tous ces départements, de Dordogne, etc. Et la ville était un petit peu animée à ce moment-là. Et De Gaulle parle, et c'est fabuleux. Passionnant de voir quel est le mot qui est le plus applaudi. Dans ses discours, il répète toujours le même discours, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Et le mot le plus applaudi, c'est le mot ordre. Ordre. Vous n'avez qu'à voir les reportages, qu'à lire les comptes rendus. Entre le mot applaudissement et le mot ovation, ce n'est pas le même sens. Voyons, le mot ovation est infiniment plus large, est infiniment plus vaste. Et bien voilà, ovation pour le mot ordre. C'est ça qui compte. Les gens en ont marre. De la pagaille, du désordre, des gens qu'on arrête, que des bandes arrêtent, n'importe où, ils en ont marre, ça change.
Alors cela nous permet justement d'évoquer ces Français du 6 juin. Comment réagissent ces Français ?
Il y a autant de situations géographiques que de Français, autant de Français que de situations géographiques. On ne parle pas assez de la Normandie, dans la mesure des Normands bombardés pendant des jours et des jours et des jours. À Caen, le 6 juin, c'est la 1300e alerte, je crois, je peux dire des bêtises, en tout cas plus de 1000, je suis sûr. Plus de 1000 alertes des bombardements à Caen. Saint-Lô sera une ville détruite à 95%. 95%. On n'en parle pas, on considère aujourd'hui, on ne parle pas de la Normandie, on a tort. La Normandie sur laquelle la guerre s'est attardée, que la guerre a tordu, a saigné, véritablement dans ces villes, dans ces habitants. Alors, les gens qui sont en Normandie voient la guerre, ils ont marre du bombardement. Et ils sont libérés, oui, ils sont très heureux d'être libérés, et ils acclament modérément, hein, quelquefois, après 30 jours de bombardement, en tapis. De bombe en tapis, c'est la bombe propre est inventée. La bombe au laser est inventée. Ce sont des bombardements qui, pour atteindre un pont, bousillent tout un quartier. C'est comme ça. Et alors après, ben, ça dépend des coins. Il y a des gens qui continuent à vivre comme ils avaient toujours vécu. Il y a des gens dans des départements comme la Dordogne, par exemple. Alors là, il y a beaucoup de maquis parce que le terrain s'y prête. Il y a beaucoup d'exécutions sommaires. Il y a beaucoup. Il faudrait 2, 3, 4 émissions là-dessus, sur ces jours. Tout dépend des jours, des heures, de ce qui est de la présence d'une armée française ou anglaise ou américaine ou de pas d'armée. S'il n'y a pas d'armée, ben, c'est fatalement beaucoup plus désordre, beaucoup plus. Vous comprenez? Et puis, la division, les Allemands qui remontent et qui fusillent et qui tuent et qui exécutent. Vous avez les massacres de Tulle, les pendaisons de Tulle, qui sont provoquées d'ailleurs par la stupidité d'un certain nombre de libérateurs de Tulle qui foutent le camp après avoir libéré la ville en laissant la population aux mains de la division d'Ashreich qui remonte. Vous avez Oradour avec tous ces morts, tous ces enfants, toutes ces femmes tuées, brûlées vives dans l'église. Vous avez tout ça. On ne peut pas dire les Français. Il faut dire des Français avec des jours particuliers, des situations particulières. La géographie commandant la réaction. Il y a des gens pour lesquels ça a été un jour comme les autres. Si vous prenez les journaux intimes, les journaux personnels tenus par les uns et par les autres, c'est là où l'on mesure combien chaque destin est différent de tous les autres destins. Il y avait 40 millions de Français, mais 40 millions de Français, 40 millions de destins.
On est surpris, je reviens au 6 juin 44 à proprement parler, on est surpris par les moyens qui sont utilisés. Les alliés ne sous-estiment absolument pas l'ennemi et vous dites dans votre livre que c'est leur force.
Ils ont bien raison. Sans ça, ils auraient été battus. Songez donc, ils pensaient faire un Montgomery, il y a l'attaque américaine, Utah, Omaha, l'attaque américaine. Donc, et puis, après, vous avez Sword, Gold, non, Sword, c'est anglais. Juno, c'est canadien, et Sword, Gold, plus exactement, c'est anglais. Donc, 5 fronts d'attaque. Mais, quelle est la grande réussite? Quel est le coup de génie? Le coup de génie, je vous le dis, c'est les ports artificiels. Il y a 2 ports artificiels. Mais ces ports artificiels sont des ports, d'abord, qui, l'un d'entre eux, à Romanche, devant Romanche, ne sera pas balayé par la tempête, parce qu'il y a une tempête de 19. Du 19 au 23 juin, il y a une tempête qui va balayer l'autre port artificiel, qui desservait Omaha. Et les ports artificiels sont des ports qui vont remplacer tous les ports naturels que les Alliés ne peuvent pas attaquer depuis Dieppe. Il faut bien comprendre que l'expérience tragique, le coup de main, enfin l'aller-retour imaginé par les Anglais à Dieppe en août 1942 tourne à la catastrophe. Les Anglais et les Canadiens surtout, d'ailleurs, quand c'est une division canadienne, attaquent Dieppe et c'est un échec terrible, terrible. Les Anglais et les Canadiens perdent le tiers de leurs hommes, en tués, en prisonniers, en blessés, enfin bref, on doit rembarquer à 4h, à midi et demi, 1h d'après-midi, on doit rembarquer, mais cet échec, cette tragédie va servir à enseigner beaucoup les Anglais et les Américains. On ne peut pas attaquer un port, donc il faut créer des ports. Car si vous ne créez pas les ports artificiels, vous ne pouvez pas débarquer. Vous pouvez débarquer, bien sûr, mais après, comment allez-vous amener le ravitaillement? Comment allez-vous amener les chars, les jeeps, les médicaments, les machins? C'est pas possible. Et le génie, le coup de génie, c'est ces ports artificiels qui sont d'une capacité qui peuvent recevoir entre 6 000 et 7 000 tonnes de marchandises. Qui reçoivent des milliers, qui vont recevoir les 2 millions d'hommes qui vont débarquer. Ils débarquent par les ports artificiels. Cherbourg sera pris, oui, par les Américains, mais Cherbourg pris par les Américains était complètement détruit. Le port a été complètement détruit par les Allemands. Cherbourg ne refonctionnera qu'à la fin de l'année, pratiquement. Donc, les 2 millions et demi d'hommes, la masse de chars, de jeeps, de voitures, d'ambulances, de ravitaillement, de nourriture, tout ce qui va faire d'ailleurs que l'aviation, que le soldat allié, soldat anglais et américain, est un soldat libre de ses mouvements, qui n'a rien à, pas grand-chose à porter, qui est transporté, qui peut avoir des véhicules, tandis que le soldat allemand n'a pas de véhicule, il va à pied, c'est très difficile, le soldat allemand est vaincu. les Allemands étaient, je crois, on peut pas, étaient supérieurs. Le combattant était généralement. Enfin, il y avait des divisions, comme la division qui était avant Cherbourg, je crois que c'est la 171e, c'était, avait une moyenne d'âge âgée, elle avait une moyenne d'âge de 36 ans. Mais je parle des divisions blindées, étaient supérieures aux Américains, qui n'avaient pas fait la guerre, pratiquement pas fait la guerre. Eux venaient de Russie souvent, et c'est la guerre, ils avaient vécu dans des époques tragiques, et des combats tragiques. Il y a un tankiste allemand, un chef de char allemand, qui s'appelait Wittmann, qui avait détruit 120 chars russes. Il arrive en Normandie, il tombe sur une côte, seul, sur une brigade anglaise, une brigade de chars anglais. Il démolit, seul, il avait 4 chars qui rappliquent après, mais c'est d'abord lui tout seul. Il démolit 20 chars Cromwell, 20 chars anglais, comme ça. Et puis après, il va démolir 4 chars américains, type américain, et puis il va démolir des jeeps, des automitrailleuses, etc. Bon, il sera tué après par un avion. L'aviation, c'est l'aviation qui gagne la guerre, c'est l'aviation, c'est pas les blindés. Lorsque les Allemands veulent contre-attaquer, ils appellent ça l'opération Liège. L'opération Liège, les Américains sont descendus jusqu'à Avranches, vous savez, et après, quand ils ont pris Avranches et le pont, là, après, ils vont éclater, exploser vers la Bretagne, puis après vers le Mans, puis après ils vont faire cette grande manœuvre d'encerclement qui se terminera à Falaise. Bon. Il y a là des Allemands qui tiennent, etc. Bon, sur, mettons, 2 kilomètres, 1,5 kilomètre, les Américains envoient 400 bombardiers, vous comprenez. Il y a une supériorité aérienne et également de la marine, car on oublie trop les canons de marine. Et au large, ils ont des bateaux qui ne risquent pratiquement rien. Rien, il n'y a pas d'aviation allemande, donc ils ne risquent rien. S'il y avait eu 2000 avions allemands, 2000 chasseurs allemands, ça se passait certainement différemment, même s'il y a eu une petite proportion très forte, disproportion très forte, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Les Allemands vont faire, dans la première journée, le 6 juin, ils vont faire 70 sorties, les autres en font des milliers. C'est l'aviation qui a gagné la guerre.
Nous allons évoquer encore une fois l'Allemagne après une seconde pause, Henri Amourou, si vous le voulez bien. Reprenons le cours de notre émission. Je reçois Henri Amourou, qui est le grand spécialiste de l'histoire des Français sous l'occupation. Je ne peux que renvoyer nos auditeurs à sa grande histoire des Français sous l'occupation, parue chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Alors nous évoquions l'Allemagne et la disproportion des forces entre les Alliés d'une part et l'Allemagne d'autre part. Est-ce que Hitler n'a pas sous-estimé cette force alliée ?
Mais si, il a sous-estimé dès le premier jour. Non, il n'a pas tellement sous-estimé. Il a pensé que le débarquement n'était pas le débarquement avec un D majuscule. Il a pensé que c'était un débarquement. Il a toujours cru que... parce qu'il ne pensait pas au port artificiel. Il a donc cru que le débarquement aurait lieu où il y avait des ports, c'est-à-dire dans le Pas-de-Calais, n'est-ce pas ? Ou Dunkerque, Calais, etc. Là, le plus facile, la route la plus courte. Et il a sous-estimé la puissance du débarquement, alors que sur place, les gens, les officiers qui commandaient, mais ils n'avaient pas beaucoup voix au chapitre. Et Rommel, qui était en permission le jour où le débarquement commence, revient et ne revoit plus Hitler. Et donc, on ne convainc pas Hitler que c'est le véritable débarquement. Si bien que il y a 2 divisions blindées qui tenaient en réserve, qui ne pouvaient agir que sous ses ordres. La Panzerlehr, c'est-à-dire la division d'instruction, qui était une division blindée très, très remarquable, très, avec des gens jeunes, 20 ans, 21 ans. Et puis une autre division, la 21e, je crois, qui ne sont pas lâchées tout de suite. Elles auraient été lâchées sur le front immédiatement. Elles auraient pu l'être à partir du 6 à... je ne sais pas, moi, à 4 heures du matin, Et donc, elles ne sont pas lâchées. Et puis, l'armée engagée, c'est la 7e armée, n'est-ce pas, l'armée allemande. Et puis, la 15e armée dans le nord et en Belgique. Et la 15e armée ne bouge pas, reste sur ses positions. La 15e armée attend une invasion qui ne viendra pas. C'est comme ça. Hein. Elle attend l'invasion qui ne viendra pas. Alors, on envoie petit à petit, par petits paquets, par rustine, si vous voulez. Je ne sais pas si le mot rustine a encore un sens, oui, pour réparer les vélos. Bon, les crevaisons, plus exactement, on envoie par petits paquets. C'est la politique la pire, parce que les petits paquets sont immédiatement bouffés, fondus dans le feu. Non, Hitler, évidemment... Là, il y avait deux thèses qui s'opposaient. La thèse de Rommel, il faut vaincre Rommel qui s'était battu en Afrique et qui avait été battu finalement par l'aviation. Bon. Et donc Rommel, il faut se battre et gagner sur les plages. Et en 48 heures ou en 3 jours, 5 jours, 4 jours, si ce n'est pas gagné en 4 jours, c'est perdu. Parce que Rommel ne méprisait pas, ne mésestimait pas la force anglo-américaine. Donc, battre. Et puis il y avait une autre thèse qui était celle de von Rundstedt, qui était son supérieur d'ailleurs, qui était il faudra livrer la France, la bataille à l'intérieur, toute force réunie contre la force alliée, au centre de la France. La bataille de Poitiers, si vous voulez. Mmh. Voilà.
Quel est le. Je sais que vous êtes attaché au devoir d'histoire et vous dites que la mémoire est sélective alors qu'il faut mettre en avant l'histoire. Quelle est la part réelle des Français dans ce combat?
Ah, elle était importante dans la mesure où, quand même, si par exemple les Anglais et les Américains qui débarquent connaissent l'endroit où ils vont débarquer, connaissent l'état des défenses, connaissent exactement les positions, connaissent le nom des officiers qui commandent les positions. Et quand ils ont pris une position, ils peuvent leur dire, voilà, il y avait ça, il y a eu un tel avant vous, il y a maintenant un tel, votre position, il y a telle arme ici, telle arme là. C'est naturellement grâce, c'est en grande partie grâce à la résistance, grâce à tous ces gens qui travaillaient, à l'organisation toute, qui mettaient des défenses, qui fauchaient des plans, qui ont envoyé le plan tout des défenses du mur de l'Atlantique, enfin, un document qui avait 3 mètres de large, qu'ils l'ont envoyé en Angleterre, et celui qui l'avait envoyé était dans les prisonniers de la prison de Caen, qui ont été fusillés 70, 60, on ne connaît pas le nombre exact, fusillés le 6 juin. Bon, si, et puis également, qui a mis en jeu toutes les destructions, destruction des machines, destruction, sabotage sur les voies ferrées, qui ralentit considérablement l'arrivée des renforts. Bien sûr que si. Les maquis, oui et non, oui, certainement, ça a retenu quelques troupes, mais c'est pas ça tellement. C'est l'information qui a permis de connaître l'état des défenses allemandes. Oui, bien sûr.
Il y a réellement une armée de l'intérieur. Et alors, vous évoquez dans votre livre les pilotes français qui sont engagés dans la bataille.
Mais oui, naturellement. Mais un homme comme Clostermann était désespéré le 6 juin parce qu'il n'a vu aucun avion allemand. Mmh. Les chasseurs n'ont vu aucun avion allemand. Par contre, il y avait des lanceurs de fumée dans l'aviation française qui ont tendu un nuage de fumée au matin, juste avant le débarquement, pour dissimuler les barges qui arrivaient, les bateaux qui arrivaient. Puis vous avez eu les groupes Guyenne, Gascogne, Lorraine également, qui étaient des groupes de bombardement. Et un homme, ils étaient pétrifiés, enfin ils avaient le cœur tordu, parce qu'ils bombardaient leur ville. Un pilote qui vient de l'Oklahoma, il va bombarder, vous comprenez bien, il faut aussi être honnête. Il bombarde, on lui dit tu bombardes, il bombarde, pof. Et si c'est à 5 km, il bombarde, il ne cherchera pas très précisément le pont. C'est très difficile de toucher un pont. Mais Livry Levrel, qui était un commandant normand, qui était dans l'aviation, donc le bombardement français, le commandant Livry Levrel, il bombardait son territoire, la Normandie. Alors évidemment, il savait très bien qu'il faisait des morts, etc. Bon, et puis il y avait également des pilotes de chasse, il y avait Andrieux, tiens, je me souviens du commandant Andrieux, il y avait tous ces gens-là, et il y en a eu qui ont été tués, bien sûr. Vous savez, et puis il y a les Français, les 177 Français du commando Kieffer, qui débarquent avec les Anglais à Ouistreham. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que sur les 177, à la fin de la bataille de Normandie, il n'y en avait que 24 qui n'avaient pas été tués ou blessés. Il faut dire ça. Bon. Voilà.
Et une force française réelle. Alors
une force française réelle, non par rapport à l'immensité, mais oui par rapport au travail de renseignement qui a été fourni. Les Anglais savaient tout, puis ils ont averti les Américains, ils connaissaient la nature du sol. C'est très important de connaître la nature du sol, ils savaient si c'est du sable, des galets, enfin bref, ils connaissaient tout ça. Ils connaissaient tout. La seule truc qui n'est pas connu, les Anglais, c'est la présence de la 352e division allemande, qui était une division très bien commandée, et qui était une véritable division, parce qu'il y en avait qui étaient des divisions avec des sourds-muets, des paralytiques presque, enfin j'exagère, des gens malades, etc. On avait pas, mais des ersatz, des divisions ersatz. Mais la 352e, non. Et c'est elle qui va être responsable de l'échec relatif, l'échec temporaire d'Omaha. C'est elle, car elle est là, et les Anglais, les Américains ne le savaient pas. Enfin, les Anglo-Américains ne le savaient pas. Elle avait été déplacée par Rommel quelques jours avant, et la résistance l'avait signalée. Mais le pigeon voyageur qui transportait le ravitaillement a été tué parce que les Allemands avaient des guetteurs qui tiraient sur les pigeons. Hein? Les pigeons, ils ont continué. Il y a eu des sections de colombophilie dans l'armée française jusqu'après la fin de la guerre, jusqu'en 49 ou 50, 51. Les Allemands interdisaient d'avoir des pigeons voyageurs. Vous étiez condamné à mort si vous aviez des pigeons. Vous pouviez être fusillé pour avoir des pigeons voyageurs. Donc, ils tiraient sur les pigeons voyageurs. Et le pigeon voyageur qui portait, vraisemblablement, l'information a été descendu par un soldat allemand, comme ça, anonyme. Et ça a été une des causes du drame d'Omaha, car Bradley, qui commandait, a failli rappeler les gens. Il a failli dire c'est un échec, on rappelle, on ne peut pas, on échoue, on rembarque. Et ça aurait eu des conséquences très graves, parce qu'à ce moment, les Allemands occupaient la plage. Et occupant la plage, ils pouvaient, n'est-ce pas, par une espèce de mouvement à droite et gauche, faire céder les autres.
Alors, Henri Amouroux, oui. le temps passe et je voudrais qu'on termine cette émission en évoquant le sort des Français. Vous avez trois affirmations dans votre huitième tome consacré à cette époque. Vous dites « Tout ne fut pas beau, tout ne fut pas pur, tout ne fut pas juste ». On a une vision un peu erronée aujourd'hui.
Nous avons une vision totalement erronée. À la suite, parce qu'il y a un certain nombre d'historiens qui s'amusent à mettre à écrire l'histoire de la pyramide sur la pointe. C'est grotesque, c'est ridicule. Mais non, bien sûr, tout fut compliqué, tout fut complexe. C'est faux, ça rime à rien. Pourquoi mentir? Pourquoi se mettre un paravent devant l'histoire? Mais si un paravent, c'est que si vous ne pouvez pas vous déshabiller sans paravent. Bon, alors c'est utile, mais le paravent ne cache jamais ni les varices, ni rien, ni le... Bon, le paravent cache, mais n'enlève pas la vérité. La vérité du monsieur qui se déshabille derrière un paravent, il ne peut pas se déshabiller sans paravent. La vérité, elle est complexe, la vérité, elle est difficile, la vérité, elle est trouble, la vérité, elle est composite, la vérité, il y a du bien, du mal, du noir, du blanc, du gris, du vert, du bleu, tout ce que vous voudrez. La vérité d'une ville de France et la vérité d'une autre ville de France, c'est pas la même vérité. La vérité d'un homme de 50 ans n'est pas la vérité d'un homme de 20 ans, la vérité d'une femme n'est pas... Tout est complexe. Il est ridicule de vouloir résumer tout en quelques mots, si on résume, il faut mettre essentiellement dans le résumé le mot complexité pour faire comprendre que ça a été difficile, une période trouble, difficile, comme toutes ces périodes révolutionnaires, vous savez, et cette période est révolutionnaire, la guerre est révolutionnaire, la guerre révolutionne les familles. Elle détruit les familles, donc c'est une révolution. Elle détruit les institutions, donc c'est une révolution. Elle détruit les villes, donc c'est une révolution. Il va falloir 40 ans pour reconstruire certaines villes. 40 ans, Saint-Lô, quand vous dites détruite à 95%. Et après, on s'arrête là-dessus. Il faudrait continuer et à dire reconstruite en 40 ans. Vous comprenez?
De cette complexité, et ça ressort beaucoup à vous lire, il y a une émotion que vous arrivez à faire passer dans vos écrits. Vous utilisez un mot très fort, vous venez d'utiliser le mot de révolutionnaire. On est dans un climat de guerre civile, et de cette guerre civile sort une émotion.
Pas partout, pas en Normandie, pas du tout, on a autre chose à faire. Mais dans certains départements, oui, en Dordogne par exemple, oui, bien sûr, c'est un département, il y a des départements de guerre civile, bien entendu. Parce que le phénomène le plus curieux de cette époque, la ligne de démarcation a tracé la France de façon telle que les Vichy et Pétain avaient sous sa coupe, Vichy et Pétain avaient sous leur coupe, des départements qui avaient tous voté, enfin qui majoritairement avaient voté à gauche en 1936. C'est comme ça. Et donc, tout ressurgit. Naturellement, ils ont applaudi Pétain, mais naturellement, tout ça, et les voyages à Lyon, et les voyages à Marseille, tout ça est très vrai aussi. C'est un moment de l'histoire. Mon second tome s'appelait 40 millions de pétainistes. Bon, c'était... Je date toujours mes livres. Un moment de l'histoire, pas toute l'histoire. C'est pas à l'arrivée, 40 millions, c'est au départ. Bon, après, ça va changer. Bon. Et donc, il y a eu des revanches à prendre dans la mesure où Vichy, et puis les Allemands, mais Vichy avait pris des lois de répression imbécile, de chercher des responsables à un malheur, qui était le malheur de la France, qui était le malheur... très loin, qui remontait très loin à la faible population, à la faible démographie française, qui remontait aux erreurs de 1918, qui remontait... Bon, il ne faut pas prendre des responsables dans la défaite, il ne faut pas chercher des responsables. On est collectivement responsables. Et alors on a condamné les juifs, les francs-maçons, on a condamné les communistes, etc. Tout c'est une erreur. Bon, et après vous avez des revanches à prendre, et vous avez alors des revanches, bon, avec les excès de la libération. Et vous savez, le choc et le contre-choc, malheureusement, c'est comme ça.
Eh bien, c'est sur ces mots, Henri Amouroux, que nous allons nous quitter. Je renvoie nos auditeurs à votre grande histoire des Français sous l'occupation, parue aux éditions Robert Laffont, pardon, dans la collection Bouquins. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci et à bientôt.